VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour de la santé et des sciences, présenté ce soir par Lionel Gaïma, en lieu et place de Camille Grosdidier. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité. Retour ce soir sur l'enlèvement samedi d'un étranger dans le nord du Burkina Faso. Baguessikoura, ce soir, on apprend que les recherches se concentrent dans le nord Mali.
Le gouvernement burkinabé avait indiqué samedi soir dans un communiqué que les ravisseurs avaient pris la fuite vers la frontière du Niger. Et bien aujourd'hui, un haut gradé de l'armée burkinabé a affirmé à VOA Afrique que les ravisseurs ont traversé le fleuve Niger et se trouvent désormais dans le nord du Mali où les recherches sont désormais concentrées. Le fait qu'aucun groupe n'ait revendiqué l'enlèvement jusqu'à ce jour rend ces recherches très compliquées selon cet officier, membre de la cellule de crise mise en place par les autorités burkinabées. Il affirme que des renforts de l'unité antiterroriste du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde de Blaise Compaoré, ont été dépêchés sur place, de même qu'une unité de paracommando de Bobo Dioulasso. « Nous bénéficions du soutien de l'opération Barkhane », dit l'officier burkinabé. L'otage en question est Gergout Lilian, 39 ans. Selon l'officier burkinabé, c'est un Roumain, ancien légionnaire français. Des sources au Quai d'Orsay et au sein du ministère français de la Défense affirment que l'otage n'est pas de nationalité française. Il était chargé de la sécurité de la mine de Tambao, la plus importante mine de manganèse du Burkina Faso.
Et vague d'arrestation au Burkina Faso. Une demi-douzaine de proches de l'ex-président Blaise Compaoré ont été arrêtés depuis hier, alors qu'un projet de loi excluant les membres de son régime des élections d'octobre devait être voté aujourd'hui. C'est en tout cas ce que rapporte l'ancien parti au pouvoir qui dénonce un harcèlement des autorités. La police les soupçonne de vouloir préparer une insurrection à partir de Bobo Dioulasso à propos du vote d'aujourd'hui. Estime le CDP. Parmi eux, il y aurait trois anciens ministres, Jérôme Bougouma, ex-ministre de la Sécurité, Jean-Bertin Ouédraogo, ancien ministre aux infrastructures, et Salif Kabore, qui était en charge des mines. Ces arrestations ont été confirmées par deux sources sécuritaires sous couvert d'anonymat. Au Mali, le Néerlandais Jacques Rischke est arrivé aujourd'hui à Bamako. Otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis novembre 2011, il a été libéré hier à l'aube par l'armée française près de Tessalit dans l'extrême nord du Mali. Côte d'Ivoire, Marie-Odette Lourougnon, responsable des femmes du FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été déférée devant le parquet. C'est ce qu'annonce son avocat cité par l'AFP. Souvenez-vous, elle avait été arrêtée la semaine dernière lors d'une manifestation. Au Kenya, un sixième suspect a été interrogé ce mardi par la police après le massacre de l'université de Garissa la semaine dernière. Les autorités détiennent désormais cinq Kenyans et un Tanzanien accusés d'avoir aidé le commando ayant mené l'attaque revendiquée par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab. La justice a prolongé de 30 jours la garde à vue des six hommes. Et en ce troisième jour de deuil national décrété au Kenya, plus de 200 étudiants sont descendus dans les rues de Nairobi ce matin pour dénoncer ce qu'ils appellent l'incapacité du gouvernement à protéger sa population. C'est visiblement un sentiment de colère qui règne aujourd'hui dans le pays. Salwa Jafari.
Une foule en colère, non pas marchant, mais courant à travers les principales artères de Nairobi. La plupart vêtus en noir pour rendre hommage à leurs camarades tombés sous les balles. Mais au-delà de la tristesse, c'est la colère qui animait aujourd'hui le cortège. Les manifestants se sont arrêtés au seuil du bâtiment de la présidence pour se faire entendre. Ils demandent réparation, compensation, une meilleure sécurité sur le campus et ailleurs.
Nous devons mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il soit plus sérieux en ce qui concerne notre sécurité. Nous ne nous sentons plus sûrs.
Les forces de la police sont partout. À chaque fois qu'ils s'approchent des manifestants, la colère monte d'un cran. Où étiez-vous ? Où étiez-vous ? Crie-t-il. La police, en tout cas, vient d'arrêter un sixième suspect et interroge désormais cinq Kenyans et un Tanzanien. Et pour ne rien laisser échapper, les autorités kenyanes ont même promis une récompense de plus de 200 000 dollars pour la capture de celui qu'elles présentent comme le cerveau de l'attaque, Mohamed Mohamoud, alias Kuno.
Quatre soldats tunisiens ont été tués aujourd'hui et huit autres blessés dans une embuscade dans la région de Kasserine, une zone d'activité de djihadistes armés dans le centre-ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé la télévision nationale Yatania 1 et citant le ministère de la Défense.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le reste du monde, un premier avion transportant du personnel médical du Comité international de la Croix-Rouge est arrivé à Sanaa, capitale du Yémen. C'est ce qu'a annoncé ce mardi dans un tweet le directeur des opérations du CICR. Selon une porte-parole du CICR, un avion cargo chargé d'aide médicale actuellement en attente à Amman, en Jordanie, devrait très bientôt décoller pour le Yémen. Les précisions de Michel Joseph.
La situation humanitaire du pays est jugée alarmante après près de deux semaines de frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les positions des rebelles chiites. Les réserves de médicaments et d'équipements dans les hôpitaux et cliniques sont en train de diminuer au Yémen, où les populations souffrent en outre de pénuries de carburant et d'eau, alors même que les stocks de nourriture se raréfient. Le CICR avait appelé samedi à une trêve humanitaire de 24 heures. Trois volontaires du Croissant-Rouge ont été tués la semaine dernière après avoir été pris pour cible alors qu'ils venaient en aide à des blessés. D'autre part, et selon l'UNICEF, le conflit a fait une centaine de milliers de déplacés pendant que l'on continue de faire courir des risques de maladie aux enfants lorsqu'ils ne sont pas tués ou mutilés.
À New York, les autorités ont appréhendé une quatrième personne soupçonnée de vouloir soutenir le groupe État islamique. Dikayot Kassimov, un New-Yorkais de 26 ans, est accusé d'avoir voulu se rendre en Syrie dans le but de participer au djihad violent, selon le département américain de la justice. Trois autres suspects ont récemment plaidé non coupables pour des poursuites identiques. Un verdict de culpabilité à l'encontre de Kassimov entraînerait jusqu'à 30 ans de prison. Il doit comparaître le 8 avril. Phase décisive dans le procès de Tsorar Tsarnaev, unique accusé dans les attentats du marathon de Boston. Les délibérations du jury ont commencé aujourd'hui. Le verdict de culpabilité est quasi certain, nous dit Félix Epassi-Zembrou.
En effet, la culpabilité de Tsorar Tsarnaev ne fait pratiquement aucun doute. Même la défense a reconnu sa participation dans les attentats du 15 avril 2013 qui ont fait 3 morts et plus de 260 blessés. Ce qui est en jeu, c'est la peine encourue par l'accusé. En fait, 17 des 30 chefs d'accusation sont passibles de la peine de mort. Les 12 jurés doivent tout de même décider si le jeune Tsarnaev est coupable ou non de chacun de ces chefs d'accusation. À signaler que la phase du procès consacrée au prononcé de la peine ne débutera qu'après le verdict. Dans son argument final, la défense a fait valoir hier que le cerveau des crimes reprochés à son client était plutôt Tamerlan Tsarnaev, le frère aîné de Tsorar, mort dans un échange de tirs avec la police. Il a fabriqué les bombes et planifié l'attaque, a déclaré l'avocate Judy Clark. Mais durant tout le procès, l'accusation s'est attachée à décrire le jeune Tchétchène, devenu citoyen américain depuis 2012, tout simplement comme un terroriste.
À Moscou, des centaines de personnes ont rendu hommage ce mardi à l'opposant Boris Nemtsov, assassiné en février dernier devant le Kremlin. Sur place, un des leaders de l'opposition, Vladimir Ryzkov, a critiqué l'enquête en cours. 40 jours après le meurtre de Nemtsov, on ne connaît toujours pas qui l'a tué ou qui a ordonné de le tuer, a-t-il dit. Avant sa mort, Boris Nemtsov préparait un rapport sur l'implication de la Russie dans le conflit ukrainien. Ce rapport pourrait être publié d'ici la fin du mois par un de ses proches, Ilya Yashin. Voilà pour ce bulletin d'information. Rendez-vous dans une heure pour un autre bulletin. Au micro, c'était Morgane Guiriec.
Soyez au cœur de l'info.